Bonsoir à tous. Donc nous allons continuer notre série ce soir, donc toujours dans les Proverbes, Proverbe 22. Et comme à chaque fois, on va s'arrêter sur quelques versets, pas beaucoup, et puis on va aller voir un peu d'autres éléments. On reprendra un petit peu juste deux petits passages sur Joseph. Hein, la semaine dernière, on avait parlé un peu de Joseph, donc le fils de Jacob. On s'arrêtera un petit peu pour voir quand même certaines choses. Mais voilà, on va rester donc essentiellement juste sur deux versets ou deux passages qui m'ont intéressé en Proverbe 22. Et on va commencer de suite et on va le lire en fait. On va commencer déjà par l'un de toute façon. Donc il est dit à partir du verset 19. Alors c'est intéressant parce que on peut avoir une certaine vision du livre des Proverbes qui peut correspondre à une certaine vision de la vie chrétienne et qui est, on va dire, partiellement erronée. Et cette vision, c'est que si vous avez remarqué, mais je pense que vous avez remarqué, depuis le début du livre des Proverbes, donc le style, il change pas énormément, et même s'il y a eu des premiers chapitres où il y avait une espèce de, comment dire, de thème un peu plus tenu, après, c'est plutôt des déclarations qui font. Et ce qui est intéressant, à partir du verset 19, là, juste sur quelques versets, pour trois versets, 19 à 21, il y a quelque chose sur lequel je vais m'arrêter un petit moment et qui change, en fait. Alors, après, le style reprend exactement dans la même tournure, il n'y a pas de souci. Mais là, il y a quand même quelque chose qui doit nous éveiller à voyez, et puis plus ou moins bien appliquée, plus ou moins bien comprise, etc. Et vous allez voir ce que je veux dire. Vous allez le voir, c'est intéressant. Donc, juste, je vais commencer par ces trois versets. Donc, Proverbe 22, à partir du verset 19, et il y a juste trois versets à ce moment-là. Il est dit, afin que ta confiance se repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Et donc, qu'est-ce qui m'intéresse ici? C'est que dans ces trois versets, on a l'impression, et c'est plus que l'impression, de au lieu d'entendre des définitions qui sortiraient simplement d'un livre, on a l'impression de se retrouver devant quelqu'un qui nous parle réellement à nous. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres endroits dans le Proverbe et ailleurs dans la Bible où il y a ça, bien entendu, même dans le livre des Proverbes à la limite, mais là, c'est vraiment très prégnant. C'est-à-dire qu'il est dit, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous dit, ça nous fait une espèce de résumé très, très général, très généraliste, qui englobe un peu tout, de qu'est-ce que la vie chrétienne. La vie que Dieu nous propose. C'est quoi la vie que Dieu nous propose? Ben, c'est que notre confiance se repose sur l'Éternel, que nous ayons confiance en l'Éternel. Ça résume tout quelque part. C'est quoi être chrétien? C'est avoir confiance en Dieu. Voilà. Alors après, il faut définir qui est Dieu, il faut définir qui est l'homme, il faut définir un certain nombre de choses, etc. Mais si vous voulez faire un résumé du résumé du résumé, vraiment synthétiser la chose, finalement, c'est un peu comme si vous aviez tout là. Ah, donc, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Cette phrase, je trouve qu'elle est, en fait, elle est lourde de sens. Elle est lourde de sens parce que on n'apprend pas grand-chose de plus. On n'apprend pas grand-chose de plus dans cette phrase, hein, là, Proverbe 22, 19 à 21. Mais écoutez ce que je vous dis, en fait, c'est ça. C'est qu'il est dit, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Et dans cette chose-là, c'est intéressant parce qu'en fait, on ressent vraiment le fait qu'il y a quelqu'un qui nous parle et qui nous parle à nous et qui parle et qui précise, je parle aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est pas je parle en général et puis tu piocheras, tu te débrouilleras avec. Je veux dire, vous prenez comment dire, oui, un recueil de proverbes de Maxime, C'est ça, ce sont des déclarations, comme on le voit d'ailleurs dans ce livre-là également, et vous avez des affirmations qui sont envoyées, et puis vous vous débrouillez avec ça. Ah, ça c'est une bonne phrase, je vais y réfléchir, etc. Et là, c'est un autre ton qui nous est donné. Il nous est dit, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, ben, la solution c'est quoi? Normalement, la logique, ça serait que la phrase suivante, ça devrait être attache-toi à appliquer tout ce que j'ai dit les 22 chapitres précédents. Ça serait logique dans le style qui est développé depuis le début, en fait. Mais ce n'est pas ce qui est dit ici. Il est dit, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Je veux t'instruire. Quelqu'un veut m'instruire. Ce n'est pas un livre qui m'instruit. Si je lis ma Bible, si j'étudie la Bible, si j'écoute la prédication ou l'enseignement uniquement avec ce point de vue qui est que je vais trouver de la sagesse dans un livre qui est la Bible et qui recèle plus de sagesse que n'importe quel autre livre et n'importe quelle personne, en fait, je suis un peu à côté de la plaque. Et pourtant, je vais peut-être prendre des choses qui sont vraies, des choses qui sont bonnes, des choses qui vont fonctionner. Je vais essayer de les appliquer. Ça va peut-être pas mal marcher même. Mais en fait, je ne suis pas dans le but de la Bible et surtout dans le but de Dieu. Et du coup, je peux me retrouver dans ma vie en me disant, tiens, c'est bizarre. J'étudie Proverbes, mais j'étudie d'autres parties de la Bible. J'essaye d'appliquer, j'essaye de comprendre. Et puis, j'ai une espèce de malaise dans ma vie. J'ai l'impression de ne pas vraiment vivre ce qui est attendu de moi et ce qu'il y a à vivre avec Dieu, en fait. Et pourquoi il y a ça? Parce qu'il manque des éléments. Et l'élément principal qui manque, en fait, c'est qu'il y ait quelqu'un. C'est qu'il y ait quelqu'un. C'est que quand je lis la Bible, je ne lis pas un livre. J'écoute quelqu'un qui me parle et qui me parle aujourd'hui et qui me parle à moi. Je vous prends un exemple. Des fois, nous n'écoutons pas Dieu nous parler à travers la Bible. Pourquoi? Parce que je lis la Bible et je me dis, ah ouais, ce verset, effectivement, c'est parfait pour ma femme. Ah ouais, non, vraiment, bien. Ou alors pour mes enfants, ou pour tel frère dans l'église, ou pour un incroyant que je connais, je me dis, ah oh purée, s'il appliquait ça, vraiment, ça. Ouais, d'accord. Ouais, mais là, Dieu, il veut te parler à toi, ou à moi, si vous voulez, aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, c'est qu'en fait, il veut me parler à moi aujourd'hui, mais pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a quelque chose à dire qui est différent, peut-être, d'une certaine manière, dans une certaine mesure, bien sûr, de ce qu'il a pu dire hier. Et alors que quand je prends la Bible ou la prédication comme un livre, ben en fait c'est un manuel. Et un manuel, il est valable aussi bien hier qu'aujourd'hui et demain. Je veux dire, si vous prenez le code de la route, quand il est dit de s'arrêter au stop, c'est valable aussi bien hier, aujourd'hui et demain, ça sera encore valable après-demain. Mais là, Dieu nous amène dans une autre, il veut nous amener dans une autre dimension où c'est lui qui nous parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a quelque chose de précis à nous dire et qui n'est pas la même chose que hier. Ça ne veut pas dire que c'est contradictoire, fort heureusement, mais il a quelque chose de spécifique aujourd'hui. Et je ne vous ai pas donné le titre, et ça va vous donner un peu une idée. Le titre, c'est la révélation. Alors vous allez dire, ben là, ouais, ah oui, d'accord, ok, la révélation. Donc le titre, ça va être la révélation, ça peut un peu nous aider à se guider. Donc ça, c'est très important. Autre chose qu'il dit, il dit, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Un point qui m'intéresse ici, c'est qu'il est parlé de conseils, il est parlé de réflexions. Et une chose qui manque, je pense souvent, à notre époque. Alors, ça ne veut pas dire que dans les siècles passés, les gens étaient forcément beaucoup, beaucoup mieux, mais enfin, en tout cas, je pense que c'est assez caractéristique de notre époque. Nous sommes à une époque où, schématiquement, nous avons tout et nous n'utilisons pas ce que nous avons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant des siècles, il y avait peu de personnes qui savaient lire et écrire. Aujourd'hui, nous savons lire et écrire. Et nous sommes entourés de gens qui ne lisent pas, qui n'écrivent pas, qui n'écrivent pas, et qui en finalité, ils arrivent à un point qui est ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion. Il y a une espèce de pilotage automatique, mais il n'y a pas vraiment de réflexion, en fait. Et il peut y avoir une réflexion que s'il y a un support, et ce support, ça va être les conseils que Dieu nous donne. Et les conseils, bien sûr, qu'on les trouve dans la Bible, mais vous savez, je pense qu'on a tous vécu la même chose. On peut lire notre Bible et voilà, on lit comme on lirait le journal. Et puis un autre jour, on va lire notre Bible et c'est comme si les mots, les phrases s'éclairaient devant nous et prenaient du sens dans notre vie. Eh bien, ce que nous devons rechercher dans notre lecture de la Bible, dans notre même l'écoute de ce que je dis ce soir, quoi, ou d'un autre, ou de demain matin, ou n'importe, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y ait des mots, il y ait des phrases qui s'éclairent devant nous. Que ça ne soit pas simplement un texte écrit noir sur une page blanche. Il faut que ça s'éclaire, en fait, dans notre vie. Parce que sinon, d'une certaine manière, c'est un peu vain, en fait. C'est peut-être pas complètement inutile, mais c'est un peu vain. On va rester à un niveau qui est un niveau au mieux moral. Mais on va pas vivre ce qui est marqué au verset 19, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. On peut lire la Bible en cherchant à être sage, en cherchant à savoir ce que l'on a à faire dans notre vie. Mais là, c'est pas ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que le but, c'est de faire confiance à Dieu. Je dois lire la Bible pour chercher à avoir confiance en Dieu, pour chercher à ce que la foi soit suscitée en moi, en fait. Et qu'est-ce qu'il nous a dit en Romains? Il nous a dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle ne vient pas de définition ou d'un livre mieux écrit qu'un autre, elle vient de la parole même de Christ. Et c'est ce sur quoi on a besoin de s'attacher. Donc ça, c'est une chose, et on va rentrer un peu plus en profondeur. Alors, je vais vous donner le deuxième verset qu'on va voir dans Proverbe, et ensuite, on va voir certaines autres choses qui doivent nous aider à vivre, à appliquer ce que je dis là, en fait. Donc, l'autre verset, je vais le lire, et puis je vais expliquer certaines choses, parce que c'est un verset qui est souvent mal utilisé, mais pas forcément en faisant des hérésies. On ne dit pas forcément des hérésies, mais on utilise mal le verset, quoi. Donc le verset, c'est Proverbe 22, 28, et je vous lirai également 23, 10, parce que c'est un peu la même chose. Il est dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Et donc au 23, 10, il est dit, ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. Alors, je vous ai lu Proverbe 23, 10 parce que d'abord, ça répète le verset précédent, mais ça apporte une petite précision qui donne du sens à ce verset que, en général, on oublie un peu et du coup, on perd de la précision qui peut être utile. Souvent, quand on parle de déplacer les bornes, on l'utilise. En fait, on l'utilise comme on en parle en français, on ne l'utilise pas forcément comme c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, on a quatre occurrences par rapport à cela. On a ces deux versets ici et on a deux versets en Deutéronome. Parce que cette histoire de déplacer les bornes anciennes, c'est en rapport avec la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, en Deutéronome 19, 14 et en Deutéronome 27, 17, il nous a expliqué de ne pas déplacer les bornes. Pourquoi? Parce que quand le peuple hébreu est rentré en terre promise, Dieu a donné un découpage du terrain. Et donc, chaque famille, chaque tribu, etc., avait des parcelles précises. Et ces parcelles précises étaient délimitées par des bornes, par des cailloux, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce que ça signifie de déplacer les bornes que les anciens ont mis? Ça signifie, en fait, ça ne veut pas dire oublier, comment dire, parce que quand nous, on parle comment dire, de déplacer les bornes anciennes, en général, à quoi on pense? On pense à des valeurs morales, à des principes qui sont vieux, parce que c'est la Bible, ou parce que c'est les anciens, ou parce que c'est la tradition, ou je ne sais pas quoi, et que on a déplacé dans notre vie. On ne fonctionne plus selon ces bornes-là. Mais ce n'est pas ce que disent ces versets-là, en fait. Ils ne parlent pas de ça, même si ça, c'est vrai aussi, mais ce n'est pas de ça que ça parle. En fait, ici, ça parle de voler, et notamment de voler l'innocent. de voler une innocente, mais d'une manière très précise. Et c'est ce qui va nous intéresser. C'est pour ça que Proverbe 23:10, il nous dit « Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. » Quand je déplace la borne ancienne, je vais dans le champ des orphelins, je vais dans le champ de ceux qui sont considérés en Israël à l'époque comme étant les plus faibles. Les plus faibles, c'était les veuves et les orphelins. C'était aussi les immigrés, mais eux, les immigrés, ils n'avaient pas de terrain à eux. Et les prêtres étaient aussi considérés comme étant les plus faibles. Pourquoi ? Parce que eux, justement, ils n'avaient pas ou très peu de territoire. Mais les autres avaient des territoires, mais ils pouvaient être des veuves et des orphelins. Et donc, personne pour les défendre, personne pour garder les limites du territoire, en fait, les limites de mon héritage. Et donc, déplacer les bornes, c'est quoi ? C'est voler mon prochain. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est voler mon prochain en déplaçant une borne. Ce n'est pas voler mon prochain en prenant quelque chose qui est à lui. C'est voler mon prochain en déplaçant ce que Dieu a fixé, en déplaçant ce que Dieu a dit. Parce que pourquoi la borne elle était là plutôt que 50 mètres plus loin ? C'est parce que Dieu l'avait dit. À telle tribu, à telle famille, c'était tel lopin qui était attribué. Et du coup, les bornes représentaient ce terrain-là. Donc maintenant, comment est-ce qu'on applique ça pour nos vies ? Eh bien, on applique ça dans nos vies, justement, là où on va voler, en fait, je pense que c'est on va se voler nous-mêmes en déplaçant ce que Dieu a dit sur nous. Dieu a déterminé un territoire spirituellement pour chacun de nous. Et quand je déplace les bornes, en fait, je déplace ce que Dieu a déterminé, ce que Dieu a déterminé pour moi, en fait. Ou alors, je le déplace pour l'autre, évidemment. Donc, c'est dire autre chose que ce que Dieu dit. Par exemple, comment est-ce qu'on va dire autre chose que ce que Dieu dit ? Ben, on va dire des hérésies. Donc, on va avoir une mauvaise compréhension des doctrines. Ou alors, volontairement, on va s'arranger avec la doctrine, avec des principes généraux que Dieu donne. Et donc, on va rentrer et on va croire des hérésies. Donc, comme certains qui, sur le salut, vont croire dans l'universalisme, comme d'autres qui vont être conciliants avec des péchés qui sont très clairs dans la Bible, que ce soit le concubinage, que ce soit se marier avec des étrangers, avec des non-croyants, ou que ce soit l'homosexualité et autres. Voilà, donc on va déplacer les bornes. On va dire qu'on ne va peut-être pas pratiquer la chose, mais on va être conciliant avec. Voilà, donc on ne dit pas comme Dieu, on déplace les bornes. Et donc, on vole les autres et on se vole soi-même. On peut aussi voler et déplacer les bornes, par exemple, par rapport à l'argent, par rapport aux mensonges, par rapport à diverses trahisons qu'il peut y avoir dans la vie. Ça, ce sont des choses qui peuvent se faire. Et donc, ça, c'est la chose à retenir. Et maintenant, je vais voir une chose, c'est que on va juste voir deux éléments, en fait. Un, on va aller voir Joseph un petit peu dans la Genèse, mais rapidement, et on verra un petit passage en Colossiens. Et vous savez, des fois, on a besoin d'avoir une ligne directrice qui nous aide un peu. Et la semaine dernière, je m'étais arrêté, alors si je me trompe, si je ne m'embrouille pas, que je trouve le verset facilement, sinon… Voilà, on s'était arrêté à la fin du chapitre précédent, là. On avait lu Proverbe 21, verset 30 et 31, mais arrêtons-nous juste sur le verset 30. Il est dit « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. » Et ça, je voulais quand même l'illustrer et le mettre dans le contexte de ce soir avec deux passages qui sont parallèles par rapport à Joseph. On va lire juste un verset en Genèse 45, verset 5 et un petit passage en Genèse 50. Et on va essayer de donner un peu de la forme à cela avec ce qu'on a dit ce soir, avec le fait que nous ne sommes pas en communion avec Emmanuel, nous sommes appelés à être en communion et avoir de la confiance envers quelqu'un. Vous savez, des fois on se dit j'ai du mal à croire des choses qui ne se voient pas et que la Bible dit. Et une des raisons, c'est que si je suis en communion avec un livre va difficilement me convaincre, notamment de choses qui ne se voient pas. Mais si c'est une personne qui me parle, je peux être convaincu. Donc, si c'est un livre, je vais accepter plus ou moins des principes de vie. Mais des choses qui ne se voient pas, la résurrection, l'éternité, la présence de Dieu qui ne se voit pas, l'efficacité du pardon, l'efficacité de, comme on l'a vu la semaine dernière, du vrai sacrifice, de donner notre vie comme sacrifice, mais un sacrifice qui est vivant et qui n'est pas mort. Ça, je ne le vois pas. Et si ça, je le tire exclusivement d'un livre qui est un manuel, je ne serai jamais convaincu par ça et j'aurai du mal à le vivre parce que ce n'est pas quelqu'un qui me le dit. Ce n'est pas quelqu'un qui me le dit. Juste, je le tire d'enseignement d'un livre, voilà, on va dire, c'est de la bonne morale, la bonne philosophie, des bons préceptes, ce que vous voulez. Et je ne vais pas être convaincu et ça va être compliqué de vivre ça parce que c'est simplement un rapport avec un livre et j'ai besoin d'avoir un rapport avec quelqu'un. Alors des fois, on va appliquer un peu mieux parce qu'on a, un rapport peut-être où on pense avoir un rapport personnel avec le pasteur qui dit la Bible. Mais ça ne durera pas toute votre vie. Ça ne va pas fonctionner. À un moment donné, on a besoin d'avoir des convictions personnelles et on a besoin que ce soit réellement Dieu qui vienne nous dire les choses. Et ça s'appelle la révélation. Ça s'appelle la révélation. Il est dit en Matthieu 4,4 et en Luc 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole, c'est réma, ce n'est pas logos. C'est une parole précise que quelqu'un dit. Ce n'est pas un discours général. S'il était marqué logos, bon, ben alors à ce moment-là, je vous dirais, écoutez, apprenez bien votre Bible, essayez d'appliquer, et puis ça devrait marcher pas trop mal. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et des fois, on a le sentiment d'être coincé, qu'il y a un malaise dans notre vie, pas parce qu'on fait forcément des choses très mauvaises, même si on en fait peut-être aussi, mais parce que, en fin de compte, nous sommes simplement en communion avec un livre, avec un manuel, avec une organisation qui est l'Église, avec des gens qui sont que des gens, mais pas avec une personne qui est Dieu. Et donc, une chose qui peut nous aider, c'est ce qu'on voit ici en donc, Genèse 45:5. Donc, je ne vous refais pas l'histoire de Joseph, c'est bon, on l'a vu la semaine dernière, vous connaissez de toute façon. Joseph, quand il se révèle à ses frères, il dit « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que le verset que j'ai lu en Proverbe, il dit qu'il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de sagesse, etc., devant Dieu. Donc, comme j'avais dit la semaine dernière, Dieu a raison et une chose qui nous cause des soucis dans notre vie, c'est de trop discuter avec Dieu. On doit lui parler, on doit l'écouter, mais on ne doit pas discuter, ou si vous préférez, discutailler. On ne doit pas polémiquer. On peut lui dire tous nos besoins, on peut lui dire tout ce que l'on veut, on peut crier à Dieu, mais discuter ne sera pas profitable pour nous, parce que discuter, ça signifie que nous nous mettons sur le même niveau que Dieu. Et ça, ça ne sera pas vrai. Donc, ça ne peut pas marcher. Et ici, c'est intéressant, parce qu'une manière de ne pas se mettre dans la discussion au niveau de Dieu, c'est de s'appliquer à penser ce que dit Joseph ici. Comme on l'a vu la semaine dernière, il a été vendu, il a été trahi, il a vécu des moments difficiles, il a été esclave, il a eu des situations un peu mieux, mais voilà, il n'est pas en terre promise, il n'est pas avec le peuple de Dieu, etc. Et ça dure, on avait dit l'autre fois, 22 ans. 22 ans. 22 ans sans sa famille, 22 ans sans son peuple, 22 ans sans son père, 22 ans sans une communion fraternelle, comme on dit aujourd'hui. 22 ans seul au milieu d'un monde hostile et pas forcément avec des situations très, très évidentes. Et la conclusion, c'est une fois que j'ai en face de moi les têtes à claque que je pourrais leur mettre des tartes qu'ils méritent, qu'est-ce que je dis? Eh bien, je dis, j'ai une vision qui est plus élevée. Je regarde ce, je suis en train de dire ce qui ne se voit pas. Je suis en train de dire ce que Dieu dit. Je dis et je définis la borne de Dieu plutôt que de la déplacer. Me faire justice, ou plutôt Joseph qui se ferait justice, c'est déplacer la borne de Dieu. Mais Joseph, il regarde spirituellement. Et il regarde aux choses invisibles et il voit où sont placées les bornes spirituellement. Et donc, il s'attache aux bornes et il dit la même chose que Dieu. Et il dit, ne vous affligez pas du mal que vous m'avez fait. Donc, il ne nie pas le fait qu'on lui ait fait du mal. Il ne nie pas que ses frères, ils aient tort à 100%. Il dit pas, c'est 50-50, oui, j'ai peut-être été un peu orgueilleux, j'ai un peu poussé, quand même, c'était peut-être pas judicieux de vous dire que j'ai eu des rêves, machin, tout ça. Non, 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 il dit, vous avez complètement tort, mais ne vous affligez pas, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est l'Éternel qui m'a envoyé en Égypte pour faire ça, ça, ça et ça. Chapitre 50, c'est intéressant. C'est intéressant, pourquoi? Parce que Jacob vient de mourir. Jacob vient de mourir. Et à partir du verset 15, il dit, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, on pardonne, oh, pardonne le crime de tes frères et le péché et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Pourquoi il pleura? Parce qu'il se dit, ils ont rien compris. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Non, pardon, j'ai loupé un truc. Oh, pardonne leur péché. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? C'est intéressant. Jésus, une fois qu'il est ressuscité, il dit, soyez en paix. Et ici, Joseph, il dit, soyez sans crainte, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous savez quoi? Des fois, on connaît la Bible, on essaye de l'appliquer comme un manuel. Il y a juste un petit caillou dans notre âme, c'est que inconsciemment, on se met à la place de Dieu. On se met à la place de Dieu et on juge de tout. On juge notre vie, on juge les autres, on juge, voilà, peu importe, on juge. On juge et on le dit. Et là, ici, Joseph, qui pourtant, lui, il pourrait en redire. Hein. Il pourrait en redire. Il est victime, il n'a pas tort. Il est du bon côté de la barrière. Hein. Eh bien, il dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu, sous-entendu pour me venger. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. C'est quand même assez intéressant. Là, vous avez quelqu'un qui ne déplace pas la borne de Dieu. Là, vous avez quelqu'un qui entend l'Éternel lui parler, oui, oui, aujourd'hui et maintenant, et à lui. Et pour lui, pas pour les autres. Parce que lui, il pourrait avoir beaucoup de choses à dire de la part de Dieu contre ses frères. Il pourrait les instruire, leur expliquer que ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait, qu'ils devraient faire autrement, que ceci. Eh bien, ce n'est pas du tout l'attitude. Et nous, ça doit être de la même manière qu'on doit prendre les choses. Et on va terminer avec un passage qui va essayer de donner un peu de lien à tout ça. C'est Colossiens 3. En Colossiens 3, on va lire quelques versets. Et voilà, j'espère que ça va un peu nous mettre, comment dire, de l'huile dans les rouages de ce qu'on a partagé ce soir. Alors, Colossiens 3. Colossiens 3, il est dit donc au début du chapitre, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et on va s'arrêter là. Je vous ai lu tout ça. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les versets 2 et 3. Mais j'ai lu le reste de manière sciemment. Pourquoi ? Parce qu'au verset 1, verset 2, pardon, il est dit « Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. » Et je vous ai lu la suite, pourquoi ? Parce que la solution que Dieu donne, c'est de s'affectionner, de s'attacher, etc., aux choses d'en haut. Hein ? Il est dit de les chercher. Le terme en grec, c'est « zetéo ». Ça signifie chercher dans le but de trouver, chercher vraiment avec intention et de manière diligente, je dirais. Et affectionnez-vous, il est dit, c'est tendez. Pourquoi c'est dit affectionnez-vous ou tendez aux choses d'en haut ? Parce que le terme en grec, c'est phronéo. Et phronéo, c'est un terme en grec qui parle du diaphragme, en dessous du cœur, en fait. Et c'est pour ça qu'il est parlé à la fois de s'attacher. Et il est parlé en même temps de s'affectionner, parce qu'il y a cette notion-là. Et tout ça est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on peut avoir, on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, connaître la Bible, la doctrine, etc., essayer de faire au mieux et de se retrouver un petit peu dans une impasse à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que est-ce que je m'affectionne aux choses d'en haut ? Est-ce que je m'attache aux choses d'en haut ? Est-ce que je cherche les choses d'en haut ? Et vous savez quoi ? Les choses d'en haut, nous ne les voyons pas. Et si les choses d'en haut, nous pouvons les voir que si celui qui est en haut m'en parle. Et celui qui est en haut, il m'en parle à travers le livre. Mais ce n'est pas le livre tout seul qui m'en parle. Le livre tout seul, il décrit un décor. Mais si celui qui est l'auteur du livre, celui qui est en haut, me parle des choses d'en haut, je commence à goûter aux choses d'en haut. Et je vous ai lu la suite du passage, pourquoi ? Parce que alors qu'il est dit « attachez-vous aux choses d'en haut » et qu'il semble parler de théologie avec le fait que nous sommes morts en Christ, que nous sommes cachés en Christ, etc., la suite c'est « faites donc mourir les membres, etc. etc. » Il est parlé de choses extrêmement pratiques pour montrer que il y a un lien logique, évident et incontournable entre une application pratique du bien que Dieu veut nous voir faire, un lien entre ça et entre le fait de s'attacher, de s'affectionner et de chercher les choses d'en haut. Et nous avons besoin de chercher les choses d'en haut, nous avons besoin de rechercher la révélation de Dieu, nous avons besoin de rechercher le rhéma, et de ne pas se contenter du logos. Nous avons besoin d'étudier le logos pour avoir un cadre, mais il ne faut pas s'arrêter au logos. Il faut rencontrer régulièrement le rhéma. Le rhéma quand je lis la Bible, le rhéma quand j'écoute la Bible, le rhéma quand j'étudie la Bible, le rhéma. Vous savez, une manière d'écouter le rhéma de Dieu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. J'écoute les conseils et je réfléchis. J'écoute les conseils et la réflexion. J'ai besoin de réfléchir et de méditer. J'ai besoin de malaxer cette parole, mais pas comme un article de loi. Pas comme un article de loi, même si ça s'appelle la loi de Dieu. Comme la parole de quelqu'un. Et c'est là que je rencontre ce quelqu'un. Et c'est là que je vais m'affectionner, m'attacher et rechercher les choses d'en haut. Rechercher des choses et regarder des choses qui sont invisibles. Est-ce que vous le voyez, vous, le pardon? Est-ce que vous le voyez, vous, l'amour de Dieu? Est-ce que vous le voyez, vous, la résurrection? Est-ce que vous voyez le paradis? Est-ce que vous voyez l'éternité? Est-ce que vous voyez Dieu? Tout simplement. Ben, je ne vois pas Dieu dans ma vie parce que je ne m'affectionne pas aux choses d'en haut. J'ai les yeux rivés sur les choses d'en bas et je me contente d'être guidé par un manuel, par un plan de métro, en fait. Je suis guidé par un plan de métro, mais vous savez, quand c'est quelqu'un qui vous guide, il y a des subtilités que vous n'allez pas avoir sur le plan. Vous avez celui qui connaît le plan et vous avez celui qui se dépatouille juste avec un plan pour aller à l'endroit où il doit aller aujourd'hui. Mais vous avez celui qui maîtrise complètement le plan. Et celui-là, il sait qu'il peut y aller par là, par-ci, par-là, mais en fait, il sait qu'à telle heure, il y a du monde ici, donc vous, c'est plus court par là, mais en fait, il vaut mieux passer par là. Quand vous avez vécu un peu à Paris, alors je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, moi, c'est le cas, à un moment donné, vous avez le trajet le plus court en métro quand vous regardez le plan, et selon l'heure qu'il est, et selon la nature des stations de métro et leur fréquentation, vous savez qu'il faut mieux passer par un trajet un peu plus long, mais où les changements vont être plus rapides, même si je fais un peu plus de stations, parce que je sais qu'à cette heure-ci, ça va être long d'aller, de prendre ma correspondance. Et si vous n'avez que le plan de métro, vous allez faire le plus court et ça va être plus long que si vous suivez le guide. Et la vie chrétienne, c'est ça. C'est suivre le guide, ce n'est pas suivre le plan. Et en même temps, le plan est forcément indispensable. C'est pour ça que je conclue avec cela. Recherchons et attachons-nous aux choses d'en haut. Attachons-nous à la révélation, au réma. Amen.